Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Si vous avez pu l'entendre ici ou là, un peu avant, c'est quand même à partir de 2007 et l'élection de Nicolas Sarkozy que se dissémine en France l'idée, le concept anglo-saxon de storytelling. Un anglicisme plus ancien qui raconte ces histoires qui nous gouvernent, cette mise en scène de l'action politique. Au cœur de la problématique du storytelling, la stratégie d'image d'une personnalité. C'était le sujet de l'émission « La suite dans les idées, ces histoires qui nous gouvernent, de Sarkozy à Obama ». Sylvain Bourmeau recevait Christian Salmon le 14 avril 2012.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. C'est une longue histoire que celle de l'importation en France de ce concept de storytelling. Elle commence juste après l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007 et nous allons la retracer en quelque sorte aujourd'hui avec Christian Salmon. Christian Salmon, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes écrivain, vous êtes chercheur au CNRS et vous êtes donc l'importateur, on peut dire en France, de ce concept storytelling. Un importateur un peu débordé par son importation, on peut le dire comme ça. Donc vous aviez publié en 2008 un livre titré simplement « Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits ». C'était aux éditions La Découverte. Depuis, ce livre a fait un long chemin, il a été beaucoup débattu. Vous avez poursuivi votre réflexion en vous nourrissant de l'actualité depuis pour la regarder au prisme de ce concept de storytelling. Et parfois, votre travail a été récupéré, peut-on dire, de façon un peu sauvage, qui vous a mis en porte-à-faux. Ça vous a pas empêché de continuer à poursuivre les analyses, et vous publiez ces jours-ci aux éditions Jean-Claude Gozevitch, de Sarkozy à Obama, ces histoires qui nous gouvernent, qui est à la fois une manière de raconter, de faire le récit, au fond, du storytelling mis en œuvre durant le quinquennat par Nicolas Sarkozy, mais aussi de vous interroger sur, finalement, ce que ce mot désormais, ce que ce concept recouvre comme réalité dans les stratégies politiques et dans les stratégies, non seulement de communication, mais véritablement de gouvernement en France, Christian Salmon. Je voudrais commencer précisément par la réception. On ne maîtrise jamais la réception de ces livres. Et je voudrais qu'on ouvre cet entretien par là. Comment vous regardez aujourd'hui l'impact qu'a eu votre livre qui, au fond, présentait un public français qui ne connaissait pas cette manière de manager des équipes et de faire de la communication. Comment vous regardez ça aujourd'hui?
C'est un cas d'école, hein. Ça mériterait même une nouvelle étude pour suivre un petit peu comment, par quel canot, ces idées du storytelling, plus ou moins vagues, plus ou moins instrumentalisées, se sont répandues dans le champ des pratiques, aussi bien des pratiques de management que des pratiques de marketing. À l'époque où j'ai publié le livre, il y avait deux occurrences du mot storytelling dans l'espace français, qui était un article de la revue Stratégie et un autre dont j'ai oublié l'origine. Aujourd'hui, il y a évidemment des millions d'occurrences. Le mot s'est répandu, a inspiré des pratiques, des agences de consulting, des agences de pub se sont constituées, et on ne peut plus aujourd'hui, en campagne électorale, ouvrir un journal ou écouter une émission sans qu'il soit question de storytelling.
Alors évidemment, avec beaucoup de malentendus en même temps.
Évidemment, le paradoxe d'une succès, c'est que plus du succès d'une idée comme celle-là, c'est que plus elle s'étend, plus elle se banalise. Donc en gros, qu'est-ce qu'il reste du travail que j'avais entrepris, qui était au fond une entreprise ambitieuse, hein, que je n'ai pas menée complètement à bien et qui reste à mener à bien, qui serait à la manière dont Michel Foucault avait parlé d'un nouvel ordre du discours, de reconstruire un petit peu cette grande architecture discursive qui fait que à un moment donné, on a une coupure épistémologique et le récit devient le paradigme organisateur de tous les récits, qu'il s'agisse d'ingénierie de l'information, d'entraînement des militaires, de politique, de management, de marketing.
Alors, oui, parce que il faut quand même insister là-dessus. On a peut-être le plus grand des malentendus associé étroitement storytelling et communication politique. Or, il ne s'agit pas que de communication politique. C'est bien ça que vous montriez dans ce livre de 2008, c'est que c'est d'abord et avant tout un mode d'organisation.
Absolument. À l'origine, le storytelling apparaît en dehors, je dirais, des champs traditionnels, des analyses littéraires ou même de certaines disciplines des sciences humaines comme l'histoire, la sociologie. Le paradigme narratif, lorsqu'il apparaît en dehors de ce champ universitaire, à la fin des années 80, c'est dans l'entreprise qu'il apparaît. Et je l'avais expliqué très bien dans le livre, on voit très bien ça avec l'effondrement du modèle fordiste qui contenait de manière immanente une sorte de récit de la vie au travail par les conditions de production.
Mais qui s'était épuisé, qui ne correspondait plus à la réalité.
Oui, l'entreprise ayant brisé son chronotope, comme dirait Bakhtine, c'est-à-dire un espace-temps articulé qui faisait sens avec un produit visible. Et au lieu de ça, l'entreprise est devenue une sorte de nébuleuse avec des structures délocalisées, un produit indéfinissable, c'est-à-dire l'entreprise marque. Et que cette grande nébuleuse a pu s'identifier à elle-même, c'est-à-dire en interne, en communication interne et à l'extérieur en termes de marketing narratif, qu'en inventant un récit artificiel. C'est ça le storytelling, c'est-à-dire une sorte de récit qui permet aux gens à la fois de se constituer en groupe, c'est-à-dire en personnages appartenant à une histoire commune, mais aussi de faire l'apprentissage du changement perpétuel qu'impose dans ces années-là le néolibéralisme, la fin de la grande carrière, hein. Et donc on a ce grand récit qui est à la fois identificateur, de manière simpliste, quand on pense à l'épopée d'un Steve Jobs ou du patron de Nike, etc. Mais également qui peut être un instrument d'apprentissage du changement qui permet aux gens d'accepter, y compris leur propre licenciement. Donc au départ, c'est ça, le storytelling, une technique de gestion et de motivation des troupes.
Alors quand vous publiez ce livre Storytelling en 2008, il y a cet effet de révélation au fond pour ce public francophone, français, qui ne connaît pas le concept, alors que dans le monde anglo-saxon, il est un petit peu plus vulgarisé déjà. Et il y a cet effet de révélation très fort parce qu'il semble parfaitement collé finalement au moment politique que nous venons alors tous de vivre, qui a conduit à l'élection à la présidence de la République de Nicolas Sarkozy. Et on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça la technique utilisée par le candidat et puis par le président Sarkozy, pour conquérir et exercer le pouvoir. C'est ça, le storytelling. Au fond, peut-être est-ce là l'explication première du succès immédiat du mot, y compris dans ces usages un peu étranges sur lesquels on reviendra par la suite, Christian Salmon.
Oui, et ben il a fallu d'abord quelques médiateurs, comme vous-même d'ailleurs, oui, vous étiez aux Inoccupables.
Et vous étiez venu en parler aussi à France Culture, mais si on a lu ce livre à l'époque comme extrêmement pertinent, c'est parce que il apparaissait dans un contexte qui semblait lui donner raison à chaque paragraphe, en quelque sorte.
Oui, en fait, bon, pour dire les choses simplement, la meilleure attachée de presse, outre celle que j'ai eue à la Découverte, c'est évidemment Nicolas Sarkozy, hein, qui a offert une sorte de cadet du storytelling, et en plus de manière tâtonnante, zigzagante, quelqu'un qui fait l'apprentissage du pouvoir en essayant de maîtriser l'agenda médiatique, de fédérer les attentions, de capter les attentions. Vous avez dit que le livre était sorti en 2008. En fait, il est sorti en 2007.
Alors, en
novembre 2007, c'est l'édition de poche qui est sortie en 2008.
C'est-à-dire juste après l'élection.
C'est-à-dire qu'on avait déjà les 6 premiers mois, y compris les vacances aux États-Unis, la crise du couple, l'entrée à l'Élysée de la famille recomposée, enfin toute cette atmosphère, le jogging au bois de Boulogne avec le Premier ministre, toute cette atmosphère de série télévisée a déjà imprégné les esprits, mais c'est évidemment, enfin les ventes du livre se sont envolées au moment où Sarkozy a rencontré Carla Bruni et qu'il en a fait la présentation publique à Euro Disney au moment de Noël, tout de suite après la venue de Kadhafi à Paris, qui avait suscité pas mal de commentaires. Et donc on a, enfin les journalistes qui suivaient, je me rappelle, ça c'était très frappant, outre les journalistes, disons, plus habitués à une réflexion en termes de sciences humaines, comme vous, les journalistes qui suivaient le candidat puis le nouveau président, à moto, les reporters de RTL, etc., ont brusquement compris qu'ils étaient manipulés. À peine Nicolas Sarkozy arrivait de Chine, il repartait pour un voyage en banlieue, et eux suivaient cet agenda sans pouvoir du tout résister. Et donc, c'est eux qui ont véritablement fait le succès du livre, et commencer à parler du storytelling.
Alors vous revenez au début du livre, au fond, sur cette séquence, sur les 5 ans, et vous allez même, en riant un peu, au fond, proposer un découpage, enfin, en tous les cas, je l'ai lu comme ça, un découpage du quinquennat en saison. Non pas, alors vous dites, il y a 3 âges de Sarkozy, mais ça, c'est la lecture académique classique, mais au fond, la lecture qu'impose désormais le storytelling, c'est de le découper comme une série télévisée. Donc vous dites, il y a 7 saisons du sarkozysme, et voilà, alors peut-être vous pouvez donner quelques exemples, qu'on comprenne comment vous avez découper chronologiquement ce quinquennat en renvoyant à chaque fois à un grand récit pour un peu thématique pour chaque saison au fond, et puis parfois avec des changements assez brutaux d'une saison à l'autre.
Oui, vous avez raison de souligner la dimension ironique de l'exercice, parce que c'est une de mes façons de résister à ce matraquage qu'a donné lieu mon livre et les réflexions, les commentaires sur le storytelling. C'est de jouer un peu avec ce concept et de montrer que, en fait, on peut s'amuser avec. Donc c'est un peu la tonalité du livre, puisque je le rappelle rapidement, le livre est découpé en petits chapitres, un peu à la manière du Prince de Machiavel. Et j'ai voulu vraiment, de manière parodique et pas du tout avec une ambition qui serait démesurée, écrire une sorte de petit Machiavel pour les nuls ou pour ceux qui sont passionnés par le storytelling. Alors les saisons du Sarkozy, mais bien évidemment, il y a la première saison qui a été racontée par Yasmina Reza et par le cinéaste qui a fait le film La Conquête. Donc c'est la conquête, la phase de la conquête du pouvoir.
Oui, mais c'est étonnant parce que chaque saison, au fond, a fait l'objet déjà de récits de fiction, enfin, ou de...
Oui, mais c'est très frappant, à la différence de l'exercice du pouvoir, l'exercice de l'État, qui est un excellent film, qui entre pas dans le storytelling, mais qui en fait la critique. Tous ces films, tous ces récits, mais y compris tous les reportages qu'on a lus dans la presse, sont pris dans les raies de cet engrenage narratif, adoptent spontanément les mécanismes de l'héroïsation, enfin, de la tension narrative, de la surprise, du coup de théâtre. Et Nicolas Sarkozy étant au fond quelqu'un qui vit au rythme, depuis toujours d'ailleurs, bien avant même qu'il ait voulu faire du storytelling, au rythme des médias, au rythme de l'actualité médiatique, s'est amusé lui-même à jouer ce rôle de personnage de roman ou de personnage de série télévisée. Vous savez, hier j'apprenais que les services de communication de la Maison Blanche, au moment d'annoncer je ne sais plus quelle décision, mais c'est une décision toute récente, se sont inspirés pour la mise en scène de la communication de la décision, c'est un ami cinéaste, Pierre-Oscar Lévy, qui m'a envoyé le tweet, d'une scène de West Wing, cette série télévisée sur la vie quotidienne à la Maison-Blanche. Il y a un autre exemple qu'on pourrait citer sur cette interpénétration du storytelling politique et du récit qui est fait de ce storytelling politique. C'est l'exemple... de Barack Obama, qui a inspiré la 7e saison de West Wing, puisqu'au moment où le scénariste écrivait la saison, où il y a un nouveau candidat démocrate, jeune, hispano, etc., qui se présente à la candidature, lui fait son discours en 2004 à la convention démocrate.
Le premier discours où il apparaît vraiment comme un leader
voilà,
potentiel.
Le scénariste le repère à ce moment-là, appelle David Axelrod, qui est son spin doctor, et construit le personnage de la série sur la maquette, si on peut dire, de... Mais là où ça se complique, et c'est là où c'est intéressant, c'est là où on n'est pas simplement dans un modèle de duplication ou de mimétisme, où il y aurait un modèle et sa copie, où la fiction imiterait le réel, c'est que lorsque la campagne d'Obama se développe au cours de l'été 2008, eh bien, David Axelrod écrit à ce scénariste en lui disant « Nous avons l'impression de vivre vos scénarios hein ». C'est-à-dire que donc on est vraiment dans une logique baudrillardienne où il n'y a pas un modèle et sa copie, où tout fait modèle et on est en fait dans une sorte de simulation avec toutes sortes de paradoxes. Parce que je vais peut-être sauter l'énumération des différentes saisons, mais qu'est-ce qu'on a au terme du quinquennat et de cette séquentialisation de la vie politique ? Eh bien, on a une campagne ennuyeuse, on a un personnage qui a perdu sa crédibilité et je cite souvent cet exemple là, ce qui est un peu arrivé au moment des élections de mid-term à Obama aussi, c'est qu'il y a des paradoxes. Le storytelling n'est pas du tout une technique de manipulation unilatérale où vous avez quelqu'un qui l'utilise aux dépens d'une foule.
Mais ça, la sociologie de la réception nous l'enseigne depuis longtemps. On ne maîtrise pas étroitement l'effet que produit un récit sur un public.
Tout à fait. Mais je le cite d'autant plus à l'ère d'Internet avec les tweets et où il y a toutes sortes de narrateurs qui entrent en compétition et où on est tous chacun tour à tour narrateur et destinataire d'un récit. Mais ce qui est frappant pour souligner les contradictions, les paradoxes et les contre-performances liées à ce storytelling, le premier paradoxe, c'est ce que les narratologues appellent le narrateur peu fiable, le unreliable narrator. Sarkozy entre parfaitement dans ce modèle-là. C'est-à-dire que, comme pour la monnaie, l'inflation monétaire ruine la confiance dans la monnaie, eh bien, l'inflation de récits, l'inflation d'anecdotes qui se contredisent ruine la crédibilité du narrateur. Et c'est ce que n'a pas compris, à mon sens, Nicolas Sarkozy, qui tente sans arrêt une nouvelle histoire, protecteur, agressif, va à droite, va à gauche. Mais en fait, c'est sa parole même qui est décrédibilisée. Et puis, il y a un deuxième paradoxe frappant, c'est les techniques d'attraction de l'attention. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus les cycles de campagne, les cycles d'information sont de plus en plus rapides. Et pour mobiliser les attentions, la pression, ce sont les cognitivistes américains qui ont montré ça très concrètement. Quelqu'un comme Damasio qui dit aujourd'hui la pression des messages, l'attraction sur les attentions des individus est si forte qu'on ne peut plus articuler la partie émotionnelle, la partie rationnelle, etc. Donc, mobilisation massive au moment des campagnes de l'attention avec ce qu'on a confondu en 2007 en France comme en 2008 aux États-Unis, une repolitisation et une sorte de phénomène d'audience lié à la surprise, à la tension narrative. Eh bien, ces phénomènes de surtension, de surmobilisation des audiences a, exactement comme dans le cas d'une prise de drogue, des effets de décompression, de dépressurisation.
Mais, vous voulez dire par là, si on poursuit, on remarque avec, sans les prendre trop au sérieux, avec toujours un peu d'ironie, qu'au fond, ce qui est en train d'arriver avec cette nouvelle campagne à Nicolas Sarkozy, c'est le type d'essoufflement qu'on constate au bout, pour certaines séries de la quatrième saison, ou même de la deuxième quand elles sont pas bonnes et qu'elles ne durent pas. Pour d'autres, c'est la septième ou la huitième. On connaît peu de séries qui durent au-delà, d'ailleurs, de sept ou huit saisons. Là, par exemple, la dernière saison de Desperate Housewives vient de commencer. Je sais plus, ça doit être 8 ou 10 ou 9, mais on connaît peu d'exemples. Donc, on a forcément, à un moment donné, un essoufflement narratif dans ce type d'exercice sur le long terme. C'est un peu comparable, au fond, à ce qui se produit après 5 ans d'exercice du pouvoir, ayant eu recours à haute dose à ces techniques du récit.
Ben, c'est-à-dire que le rapport au souverain a changé complètement depuis l'explosion d'Internet, le néolibéralisme. C'est-à-dire qu'on a affaire... Vous savez, quand on parle de Sarkozy, il faut toujours avoir à l'esprit ce que d'autres biographes ont dit d'autres présidents. Il y a, par exemple, un livre magnifique qui a été fait aux États-Unis par une sociologue qui s'appelle Rubenstein, qui s'intitule « This is not a president », c'est-à-dire « Ceci n'est pas un président ». Et elle fait une sorte de... Il y a un chapitre par président... Vous prenez le chapitre sur Clinton, on croirait qu'il est écrit sur Sarkozy. C'est-à-dire, elle repère des récurrences dans les discours des biographes ou un petit peu comme certains médiévistes avaient fait avec l'image de l'artiste, l'image du président est structurée dans une sorte de d'exagération de ses pouvoirs, d'appétit constant, de dynamisme, de caractère survolté. Et l'autre aspect rhétorique qui revient, c'est le côté, ce qu'elle appelle une pathographie présidentielle, c'est-à-dire que on symptomatise le comportement. C'est-à-dire que notre rapport aux hommes politiques, de fait, est un rapport de consommation. C'est-à-dire qu'on consomme nos hommes politiques exactement comme on consomme des avatars, des personnages de séries télévisées, etc. Et ça produit le même genre de paradoxe et d'impasse narrative, finalement.
Alors, il y a quand même une sorte d'énigme que nous vivons, et la question se pose et posée publiquement depuis que cette campagne a démarré, c'est que vous vous souvenez, le mot de storytelling a permis d'expliquer un certain style de campagne de Nicolas Sarkozy, puis après on a commencé à dire, au fond, ce qui caractérise son mode de gouvernement, c'est d'être en campagne permanente. Et puis tout ça finalement s'est émoussé, il y a eu des tentatives du récit d'une représidentialisation ou d'une présidentialisation, et puis à mesure que l'échéance électorale approchait, on nous expliquait que de toute façon c'est en campagne qu'il est le meilleur, et on allait voir ce qu'on allait voir, et il allait retrouver ses capacités à maîtriser l'agenda médiatique et politique. Et puis à chaque fois, à nouveau, depuis que la campagne a démarré, avant les grands discours, les grandes annonces, le programme, ceci, cela, les grandes émissions de télévision, il y avait des roulements de tambour, on allait voir ce qu'on allait voir, et c'était une bête de scène. Et puis à chaque fois, pas grand-chose, une déception, y compris d'ailleurs dans son propre camp, où le doute s'est installé, puisque c'est pas tellement déception par rapport à un contenu annoncé, mais plutôt sur le fait que on ne reconnaît pas le héros tel que il avait pu être célébré.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tout ce que vous dites là sur on annonce, d'ailleurs ces jours-ci même, avant, on annonce la grande manifestation, c'est-à-dire le magicien va sortir de son sac. Mais on oublie une chose, c'est que c'est précisément la crédibilité de ce performeur qui est atteinte. Donc il monte sur scène.
Il ne peut plus être performatif.
Exactement. C'est un performeur non performatif ou qui échoue sa performance parce qu'il a épuisé la crédibilité de son personnage et de son langage. Donc c'est ça au fond qui ne marche plus, c'est ce qui explique paradoxalement, moi j'observe ça depuis le début de la campagne, le succès de François Hollande, qui est un succès très peu narratif. Il a tenté, et à mon avis il s'en est retiré assez vite, à juste titre, il a tenté un petit peu avec le rêve français de nous vendre un petit récit de campagne, mais il s'est rendu compte qu'au fond, et là
s'en être gardé, oui, au fond.
Il a pas bougé depuis. Pourquoi ? Parce qu'il est l'anti-Sarkozy. Il a compris que la campagne se jouerait autour de l'épuisement du narrateur, du spectacle, du rebondissement, et que les Français, il n'y a qu'à écouter les discours d'Hollande, c'est la constance, c'est la responsabilité, c'est le sérieux, c'est la cohérence, enfin tout ce qui est, au fond, relève d'un paradigme d'homme politique d'un autre âge, et pas de ce performeur qui, vous avez vu peut-être hier ou ce matin, Sarkozy qui met en scène son dialogue avec Barack Obama une sorte de retransmission télévisuelle. Hein, donc c'est ça. On a d'un côté, et au milieu entre les deux, il faut en dire un mot aussi, il y a le surgissement de Mélenchon qui, à mon sens, parce que ce qui caractérise quand même le storytelling, c'est l'identification d'un programme politique à un homme, le phénomène de personnalisation, la mise en tension de ce qui arrive à ce personnage, ses émotions, etc., etc.
Alors, qui lui semble reprendre le flambeau d'un certain type de storytelling.
Alors moi, je dirais que dans le cas de Mélenchon, la dépersonnalisation du parcours, mais le fait de mobiliser des grandes références historiques, c'est-à-dire un grand récit national, hein, Blum, De Gaulle, Mitterrand.
Mais là, on a l'impression question d'un récit en costume, pourrait dire Daniel Cohn-Bendit quand il le critique pour ces raisons-là, précisément.
Ben, moi, je le sens pas tellement, parce que ce qui a fait la différence entre un discours en costume et un phénomène de narration collective, un grand récit qui se constitue, eh bien, c'est la réception. Et là, la réception, il y a eu, de la part de Mélenchon, une prise sur le réel qui est absolument surprenante. Et là, du coup, c'est une performance réussie.
Il y a un impact évident. Alors, Christian Salmon, vous disiez tout à l'heure, au fond, les journalistes, quand ils ont compris ce qu'était le storytelling, rapidement, après l'élection de Sarkozy, ont eu le sentiment de se faire manipuler, balader sur l'agenda. Alors, à la fois, c'est vrai, d'ailleurs, on a vu des journalistes utiliser le concept dans leurs éditoriaux, en particulier ceux qui font des papiers d'analyse pour réfléchir à ça, et c'est un concept extrêmement utile. Mais en même temps, on peut se dire aujourd'hui que ce qui frappe, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire c'est que, même en connaissance de cause, quand même, beaucoup d'entre eux continuent de se faire étonnamment balader le performeur est moins efficace, il continue quand même à susciter une forme de production médiatique qui ne semble pas très réflexive par rapport à la question du storytelling, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, tout à fait, parce que tout ce beau monde appartient au même champ performatif et il y a une sorte de concurrence de narrateurs, mais tout le monde participe à la même série télévisée, c'est très frappant.
Vous voulez dire qu'on écrit tous la même histoire?
Oui, c'est très frappant, même ça vous a pas échappé dans l'iconographie des candidats, les choses qu'on voit dans les photos qu'on voit dans les journaux. On a sans arrêt à l'esprit les mises en page de la série West Wing à la Maison Blanche. Donc le problème qui se pose, c'est ça. C'est-à-dire que même les sondages, j'ai fait une chronique là-dessus récemment, je parlais du battement d'aile de l'échantillon avec ironie. Pourquoi ? Parce que ces sondages, quand on les examine en considérant la marge d'erreur de 3% qui pondère leurs résultats, eh bien depuis un an, il y a une extraordinaire stabilité des sondages. À part la poussée de Mélenchon, il y a une extraordinaire. Pourtant, on a vécu ces sondages, la publication de chacun de ces sondages, comme un coup de théâtre, un nouvel épisode, le croisement des courbes, Marine Le Pen à 25% en tête, Sarkozy qui sortait du jeu, ou Hollande, les courbes qui se croisaient, le 21 avril à l'envers, le 21 avril à l'endroit, le troisième homme, Bérou, qui revient, et puis qui disparaît. Et donc, ce que je disais, c'est que même les sondages qui sont quand même un élément d'appréciation relativement objectif, certes, ce sont des probabilités, ce sont des sondages, mais c'est quand même un système d'analyse qui repose sur des faits objectifs. Eh bien, ces sondages, il n'y avait qu'à écouter Buisson dans une interview qu'il avait faite au Monde, le conseiller de Nicolas Sarkozy, qui disait « Les journalistes se racontent une histoire, mais il ferait mieux de suivre l'histoire qui est en train de s'écrire. » Sous-entendu, dans les sondages. Donc, les sondages eux-mêmes racontent des histoires. Donc, en fait, c'est là où le storytelling n'est pas prêt de disparaître, parce que avec Internet, avec cette et j'oubliais de citer la télé-réalité de la terreur qu'on a vécue avec l'épisode de Toulouse.
Avec l'avènement des chaînes d'information continue qui jouent un rôle beaucoup plus important cette fois, parce que les 5 ans, elles étaient vues par beaucoup moins de téléspectateurs.
Absolument, c'est un des éléments. Je me souvenais même pas qu'elles étaient...
Elles existaient, mais elles étaient pas sur la TNT, enfin il n'y avait pas le même impact.
C'est ça, ça jouait un rôle très important dans cette sorte de bouilloire de la tension narrative qui oblige à tout instant à apporter un élément. Et au fond, c'est ça que je voudrais démontrer, que j'ai voulu démontrer dans ce livre, c'est qu'on est tous des storytellers. On est tous, je disais en citant Pierre Michon, qui en parlait à propos du lecteur, nous sommes des crapules romanesques. C'est-à-dire que c'est ça la question de la démocratie aujourd'hui. Avec ces magnifiques outils qu'on nous a distribués, nous pouvons à tout instant raconter notre histoire, contredire celle de l'autre. Donc on vivote dans une sorte de champ performatif romanesque où on a le pouvoir d'apprécier ou de déprécier les personnages politiques, les commentateurs, les journalistes. Et dans cette fantastique foire au récit, finalement, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'il reste des grands enjeux démocratiques ? Qu'est-ce qu'il reste de la délibération ? Et là, je pense que c'est pour les années à venir un débat qui doit se poser de manière extrêmement claire, parce qu'il y a là, il y a aussi des auteurs à faire revivre, à mobiliser, y compris la réflexion de Foucault sur... toute la réflexion sur la parésia, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise parésia en démocratie ? Eh bien, nous sommes dans un cas archétypal de mauvaise parésia.
Alors, juste pour, parce qu'on a commencé sur un malentendu qui était le fait de confondre storytelling et communication politique. Là, vous terminez sur un autre malentendu par rapport à la réception de votre travail sur le storytelling, qui est l'idée qu'au fond, ce travail que vous faites ne vise pas à clouer au pilori le fait de raconter des histoires. Bien au contraire, il y a une forme de fascination et de respect de votre part pour ces récits. Et vous le rappeliez, nous sommes tous des storytellers.
Tout à fait. La question, c'est qu'est-ce que portent ces récits? Parce que, pour tout vous avouer, mon prochain livre sera un roman et je suis en train de l'écrire. Donc, mon action au sein du Parlement des écrivains visait à défendre les romanciers. Donc, je suis pas du tout contre la narration, mais pour des narrations complexes, pour des narrations collectives, pour des narrations porteuses d'idées et de possibles.
Et pour des lecteurs critiques, toujours. Merci Christian Salmon. Ces histoires qui nous gouvernent, c'est un livre qui paraît aux éditions Jean-Claude Gossevitch. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Arthur Bédouin, à la technique Ariane Herbé, à la réalisation Bruno Sourcy.
Vous venez d'entendre Ces histoires qui nous gouvernent, de Sarkozy à Obama, une archive de l'émission La suite dans les idées, diffusée pour la première fois le 14 avril 2012 sur France Culture. À retrouver sur franceculture.fr pour la podcaster pendant un an et pour la réécouter sans limite dans le temps.